mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Finkel, bonjour. Bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, mon invité est Pierre Juston. Bonjour Pierre.
Bonjour Irène.
Pierre, vous êtes né à Toulouse le 22 mai 1989. Vous êtes fils unique. Vous faites vos études secondaires et supérieures à Toulouse. Aujourd'hui, à 29 ans, vous êtes doctorant à l'Institut de droit public. Également attaché temporaire d'enseignement et de recherche, vous travaillez sur tout ce qui touche à la liberté de conscience et de religion et au principe de laïcité. Vous êtes élu au Conseil de faculté de droit de Toulouse. Vous avez écrit quelques articles scientifiques et des articles plus polémiques dans le journal Marianne sur ces questions. Nous y reviendrons d'ailleurs. À Toulouse, vous êtes également administrateur du CRIJ Occitanie, délégué adjoint de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité dans le département, militant du Parti socialiste et engagé aux côtés de Romain Cugif, que j'ai d'ailleurs reçu ici même la semaine dernière. Nous aurons le temps, bien sûr, de revenir sur tout ce parcours. Mais Pierre, avant d'évoquer tout cela, quel genre de petit garçon étiez-vous ?
Alors déjà, merci de m'inviter, Irène. Et alors, quel genre de petit garçon j'étais ? J'étais un petit garçon joyeux, très heureux. Je suis né à Toulouse. Je suis né à la clinique des Teinturiers, comme beaucoup de ma génération, fin des années 80, en face de la Garonne, de l'autre côté, rive gauche. J'ai passé mes premières années rue de l'Étoile avec mes parents, dans le petit quartier Saint-Aubin. Que j'affectionne encore beaucoup, même si je n'y habite plus aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion, du coup, de me souvenir notamment de la place Saint-Aubin, où on allait. J'étais à l'école maternelle Saint-Aubin également, d'aller voir les marchés avec cette place et les étals le dimanche. Et puis, j'ai eu une petite parenthèse creusoise, où on a été un peu expatriés, c'est ce qu'on dit souvent dans la famille de Toulouse, parce qu'on est une famille qui a vécu à Toulouse depuis assez longtemps.
Vos parents sont eux-mêmes toulousains ?
Exactement. Alors, mon père est né à Lourdes, mais c'est vrai, dans la Haute-Pyrénées, et il était très souvent à Toulouse. Il a fait ses études à Toulouse, il a vécu à Toulouse, ma mère également. Et donc, on a fait cette parenthèse creusoise, puisque mes parents étaient enseignants, et ils ont été mutés, c'était leur premier poste, ils ont été mutés à Bourganeuf. Donc, on est allé en Creuse pendant ces quelques années. Alors, j'en retire...
Vos parents sont enseignants tous les deux, donc.
Exactement. Alors là, ils sont à la retraite depuis l'année dernière.
Oui.
Ma mère est prof de lettres, elle était prof de lettres, et mon père était prof de cuisine en lycée hôtelier.
D'accord.
Et donc, son premier poste, il l'a eu au lycée hôtelier de Bourganeuf, dans le centre de la France. Et donc, pendant de 4 ans et demi à 10 ans à peu près, le temps qu'ils obtiennent à nouveau leur mutation pour revenir dans la ville rose, on a vécu un peu dans les bois, parce que là-bas, en fait, c'est très, très boisé et très rural, et j'en retire un plaisir immense et des grands souvenirs aussi, parce que moi je suis plutôt un petit bobo toulousain, on va pas se le cacher, j'habite rue de la Bourse à deux pas d'ici, et je suis très très bien dans le centre-ville, et je m'épanouis parfaitement dans cette ville que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai encore un petit attachement aussi à tout ce qui est campagne, à tout ce qui est rural, à tout ce qui est forêt, parce que j'ai vécu ma petite enfance là-bas.
Alors vous avez vécu votre petite enfance, mais comme on l'a dit en début d'émission, vous êtes fils unique. Est-ce que ça a été une souffrance pour vous ?
Alors, c'est drôle que vous me posiez la question. Oui, ça a été quelque chose d'assez difficile à vivre pour moi, parce que j'aurais tant aimé avoir partagé des choses avec un petit frère ou une petite sœur. J'ai d'ailleurs embêté mes parents pendant de nombreuses années, puis j'ai abandonné au bout d'un moment en demandant quand est-ce que le petit frère ou la petite sœur arrivait. D'autant plus que mon enfance, en étant en Creuse, si vous vouliez, les week-ends, je me faisais des petites balades en forêt tout seul. C'était intéressant, hein, mais c'est vrai que j'aurais eu l'occasion d'avoir un petit frère ou une petite sœur, j'aurais apprécié. C'est pas le cas, c'est pas grave.
Oui. Comment on grandit quand on est fils unique ? Vous avez été considéré comme un enfant roi ?
Alors non, pas du tout. Alors c'est pas trop la politique de la famille. Par contre, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir été choyé, effectivement, d'avoir eu l'occasion d'avoir des parents très attentionnés, très à l'écoute de mes besoins, de mes envies, et en même temps... des parents qui savent ce qui est bon pour leur enfant aussi, et donc des fois ça va un peu à contresens de ce que l'enfant veut, et je les remercie éternellement toujours, par exemple, de m'avoir mis à la musique. Je voulais jouer de la trompette au début, puis ils m'ont mis au piano. Alors, ils m'ont dit non, il faut jouer du piano d'abord pour pouvoir jouer d'autres instruments après, et c'est vrai que je les remercie encore aujourd'hui, parce que c'était une décision excellente, et je prends énormément de plaisir encore à jouer quand j'en ai le temps, des improvisations de jazz ou des interprétations classiques.
Vous avez commencé donc le piano très très jeune. C'est un instrument que vous avez pratiqué toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui encore ?
Alors, je l'ai pratiqué toutes ces années, puis il a une importance particulière pour moi parce que c'était même à un moment donné un choix de vie. J'avais envie d'être musicien, je n'avais pas envie de faire des études de droit. On pourra y revenir. Et effectivement, ça a été un instrument qui m'a toujours accompagné. Aujourd'hui, j'ai toujours mon piano. J'en ai même deux à l'appartement, un où je compose et un où je...
Ça prend de la place. Qu'est-ce que c'est, des quarts de queue ?
Non, pas du tout. Ce n'est pas des pianos classiques. Je n'aurais pas les moyens ni la place dans mon appartement.
Des pianos numériques ?
Des pianos numériques. Alors, j'ai un vieux piano Roland que je traîne depuis une quinzaine d'années maintenant. Mm-hmm. Et un piano Chavanne, qui est la boutique qu'il y avait en face du Collège Fermat,
qui a toujours, sûr.
Je crois, en face du Collège Fermat, auquel je tiens aussi. Et c'est sur ce dernier piano que j'enregistre, parce qu'il y a plusieurs pistes, effectivement. Alors que le premier, il y a simplement un clavier, certes numérique, mais qui reproduit un peu le toucher d'un vrai clavier, même si ça n'est pas un vrai clavier.
Vous composez ?
Oui, il m'est arrivé de... je composais beaucoup lors de mon adolescence et lors de on va dire ma vie de jeune adulte, quand j'ai eu mon autonomie en centre-ville vers l'âge de 17-18 ans.
C'est un bon moyen pour canaliser, un moyen d'expression également. C'est formidable d'avoir la chance de pouvoir jouer un instrument.
Alors totalement, d'autant plus qu'en fait, je remercie aussi le professeur de piano que j'ai eu. J'ai eu la chance à l'École nationale de musique, dans la petite ville de Bourganeuf en Creuse, d'avoir quelqu'un qui était un jazzman, qui était très intéressant parce qu'il nous apprenait à jouer des morceaux classiques de manière... clair, de manière rigoureuse, comme de manière classique, si j'ose dire.
Comme tous les jazzmen, j'ai envie de dire même.
Et exactement, comme tous les jazzmen, mais ils nous apprenaient toujours à réinterpréter ces morceaux que l'on avait appris et qu'on maîtrisait, une fois qu'on les maîtrisait en jazz, pour nous apprendre un peu l'improvisation de jazz et donc éveiller en nous une sorte de créativité. Et j'en retire un plaisir immense parce qu'aujourd'hui encore, alors je joue beaucoup moins d'interprétations classiques, j'ai plus de plaisir à l'écouter. Différentes interprétations. Par contre, j'ai gardé vraiment cet esprit créatif et d'improvisation de jazz que j'aime beaucoup.
Est-ce qu'on peut dire, en tant que musicien, vous pouvez considérer le piano comme étant un troisième parent pour structurer l'homme que vous êtes devenu ?
C'est possible. Je ne l'ai jamais vu comme ça, mais pourquoi pas, effectivement. Ça peut être quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a accompagné depuis mon enfance et j'y tiens énormément parce que c'est une facette de moi que je n'ai pas forcément... dans ma vie de tous les jours, avec les différentes responsabilités que je peux avoir et engagements. J'ai plutôt une image d'un étudiant en droit, un peu sérieux, rigoureux et lisse. Or, j'ai plutôt cette autre facette, un peu un visage Janus depuis que je suis petit, avec cette facette créative de mon jardin secret, un petit peu avec ce piano et cet esprit musical.
Alors, revenons justement à ces jeunes années dans la Creuse. Une maman prof de littérature, j'imagine qu'elle vous a mis très tôt à la lecture.
Ah oui, évidemment, alors très tôt à la lecture, très tôt à l'écriture. Et j'ai une passion immodérée, comme la musique d'ailleurs, mais notamment pour la lecture. Je lis beaucoup.
Vous lisez ?
Alors en ce moment, je lis un ouvrage sur Giacomo Casanova, qui est un ouvrage assez classique, connu d'un auteur dont le nom m'échappe maintenant, mais ça va me revenir d'ici la fin de l'émission. Je lis Le Petit Prince en ce moment également. Je le relis souvent.
Et là, Bien sûr.
C'est un passage de ma vie où j'avais envie de le relire. Et après, malheureusement, enfin, heureusement, je ne sais pas, mais je lis des ouvrages plus académiques et moins... parce que je n'ai pas le temps non plus de lire que des choses qui me font plaisir. Et il faut aussi que je nourrisse mon travail de thèse. Et donc, je lis des ouvrages, on va dire, un peu plus rébarbatifs.
Alors, vous avez été donc dans la lecture très jeune. Vous avez lu beaucoup de choses classiques, j'imagine.
J'ai eu la chance, je dirais. Alors peut-être c'est une vision un peu réactionnaire des fois de l'éducation nationale, parce que toute ma famille est dans l'éducation nationale, donc j'ai une vision assez singulière de cette institution. Mais c'est vrai que je suis d'une génération où on a fait lire peut-être à tort, à mon avis, des ouvrages très modernes pour apprendre au collège la littérature. Et j'ai eu la chance d'avoir cette mère, moi, qui m'a toujours dit il faut quand même connaître ses classiques.
Donc, bien sûr.
J'ai lu les grands classiques de la littérature française, les Zola, les Flaubert, pour prendre ce siècle-là, mais il y en a d'autres, Montaigne, évidemment, un peu avant.
J'entends ce que vous dites. C'est vrai que je pense que vous êtes le plus jeune de mes invités jusqu'à aujourd'hui. Donc, d'après ce que vous dites, dans l'éducation à aujourd'hui, dans l'éducation, dans les écoles, on n'apprend plus on ne fait plus lire aux étudiants, enfin pas aux étudiants, mais enfin en tout cas aux collégiens et aux lycéens des auteurs comme Flaubert, comme Zola, comme Victor Hugo.
Alors j'ai l'impression, peut-être à tort, hein, mais moi, ma génération, j'ai eu l'impression qu'on nous faisait lire, alors je trouve ça très intéressant, des livres plus modernes, d'auteurs en vie aussi, et ça, j'entends totalement aussi cet engagement-là de vouloir aussi faire découvrir des auteurs qui vivent encore et qui sont présents, et donc avec qui on peut, les élèves peuvent échanger. En revanche, je trouve dommage parce que beaucoup d'auteurs contemporains, évidemment, s'inspirent et font des clins d'œil à des classiques. Et donc, si on n'a pas les classiques avant ou les fondamentaux, ça me semble compliqué de tout comprendre. Et donc, d'embrasser une œuvre moderne totalement et de la comprendre dans sa complexité, dans sa beauté. Je prends un seul exemple. Par exemple, j'adore Jean Anouilh, qui est bon. Alors, il est plus très moderne, Jean Anouilh, mais c'est quand même un auteur de pas très loin de nous.
Effectivement, quand même. Pas très loin de nous et curieusement certainement moins connu de la nouvelle génération.
C'est vrai. Et alors j'avais lu Jean Anouilh et je suis tombé, je crois, sur Jean Anouilh, une reprise de Jean Anouilh au bac de français de la fable de la cigale et de la fourmi. Comment comprendre cette fable-là si on n'a pas lu ça fait référence à une polémique qui est aujourd'hui sur les fables de La Fontaine, mais comment comprendre évidemment cette fable-là reprise par Jean Anouilh qui dit des choses sans avoir lu avant la fable de La Fontaine. Je prends cet exemple-là parce que pour moi il est parlant et il me semble qu'on peut faire les deux. Ça demande du temps, ça demande du travail, mais on peut très bien le faire et ça me semble décisif et fondamental. Voilà. Et donc oui, effectivement, ma mère m'a passé un goût pour la lecture immodéré. Je ne peux pas m'empêcher de lire, je ne peux pas m'empêcher d'écrire non plus. Bon, là, j'ai de quoi faire avec la thèse et avec mes travaux scientifiques.
Oui, et on reviendra effectivement sur la troisième partie de l'émission, sur votre actualité, justement sur cette thèse aujourd'hui. Mais revenons encore une fois à ces jeunes années, avec un papa prof de cuisine, j'imagine, qui vous a appris, là c'est la gourmande qui pose la question, qui vous a appris à faire la cuisine et la bonne cuisine, et en tout cas, qui vous a appris peut-être à bien manger.
Alors paradoxalement, il m'a plus appris à bien manger qu'à faire la cuisine. En tout cas, je ne suis pas un grand cuisinier. Je fais évidemment les plats que je peux faire lorsque j'ai des ingrédients sous la main avec des petits réflexes que j'ai pu avoir de lui. Mais par contre, il m'a fait aimer effectivement la cuisine. Est-ce que c'était plus que la cuisine, j'ai envie de dire un art de vivre hein, finalement, de bien manger, de bien se nourrir, de réfléchir à ce qu'on a dans son assiette. Et c'est un sujet aussi éminemment d'actualité. Et j'ai une anecdote qui me revient comme ça, alors pas en Creuse mais à Toulouse où vers l'âge d'avoir 13-14 ans, comme il était professeur au lycée hôtelier, il y avait eu un échange avec des étudiants louisianais et donc avec les étudiants français, ils étaient partis en Louisiane pour découvrir la gastronomie louisianaise et américaine et on avait fait venir ensuite, le lycée avait fait venir les étudiants louisianais en France et on avait eu l'occasion, et c'est vraiment une chance que j'ai eue moi à cet âge-là, d'aller déguster des fromages de chez Xavier dans sa cave privée et faire découvrir à des gens qui venaient de Louisiane ces fromages-là avec les meilleurs sommeliers de France qui s'étaient déplacés pour l'occasion et parmi les meilleurs boulangers pour accorder le pain, le vin et le fromage. Et j'avais trouvé, c'était un moment de grâce, enfin, quelque chose qui m'est resté à vie effectivement parce que j'ai l'amour des bonnes choses et évidemment dans cette ville, avec tous les marchés qu'il peut y avoir, avec toutes les boutiques, les restaurants, on pourra en reparler aussi, mais il y a énormément à faire d'un point de vue gustatif. Et donc ça, j'ai cet amour-là aussi, effectivement.
Alors, vous revenez donc à Toulouse à votre entrée au collège ?
Alors, un petit peu avant, CM2.
Oui.
Et je suis un banlieusard parce qu'on est arrivé d'abord à l'Union. Mes parents voulaient acheter une grande maison à Toulouse. Il n'y avait pas eu encore la crise, ils avaient les moyens. Et c'est vrai qu'on a vécu des épisodes un peu douloureux en Creuse parce qu'on a eu de multiples déménagements suite à une maison qui a brûlé. Et donc, on a dû déménager dans plein de maisons que l'assurance nous prêtait. Et j'avais été un peu traumatisé petit de ne pas avoir de maison, de base, repère. Et lorsqu'on est arrivé à l'Union, finalement, mes parents ils avaient loué une maison pour pouvoir trouver un grand immeuble ou un grand appartement à Toulouse. Et ils m'ont écouté. Au bout d'un moment, je voulais absolument trouver à l'Union parce que je m'étais fait des nouveaux copains, des nouvelles copines. Et donc, j'étais en CM2 à l'école Belbès de Toulouse. Et je voulais aller au collège Georges Chompton de l'Union, et pas à Saint-Sernin ou à Fermat, parce que je ne connaissais pas, parce que ça ne me parlait pas le centre-ville, etc. Et puis après, j'ai redécouvert évidemment tout ça en étant lycéen à Raymond-Nave, dans le quartier de Bonnefoy.
Vous avez commencé la scolarité toulousaine vraiment à partir de la seconde, donc ?
Oui. Alors après, j'allais beaucoup à Toulouse, hein, évidemment. Oui, quand on habite l'Union, c'est à 5 minutes.
Bien sûr, c'est, la banlieue, c'est plus que la banlieue.
Et puis d'autant qu'on habitait tout en bas de l'Union, donc c'était vraiment juste à côté. Puis on y allait, parce que c'est, encore une fois, c'est la ville de mes parents et d'une partie de ma famille. Donc c'est une ville auquel on est très attaché. Donc tous les matins à Saint-Cernin pour aller au marché aux puces, évidemment.
Vous aviez tous vos repères en arrivant.
Oui, de toute façon.
Quelle a été la place dans vos jeunes années avec vos parents? Des voyages, est-ce que vous avez des parents qui vous ont fait découvrir le monde? Comment ça se passait?
Alors c'est un autre point effectivement très important dans ma vie, c'est une vraie passion. Quand j'aurai terminé ma thèse, je sais que je me débrouillerai pour voyager beaucoup plus, parce que là j'ai dû réfréner un petit peu ces envies-là. Mais j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait énormément voyager, donc je pense qu'ils ont permis une ouverture au monde, une ouverture aussi à la créativité, une ouverture à beaucoup de choses, parce que les voyages permettent de s'ouvrir à tout. Et donc j'ai voyagé énormément avec eux. Je me souviens d'un voyage qui m'a beaucoup marqué à l'âge de 7 ans. On est parti 3 semaines ou un mois en Indonésie. On a visité toute l'île d'Indonésie.
C'est extraordinaire pour l'ouverture d'esprit
d'un
enfant.
C'est formidable. D'aller en Égypte, d'aller dans tous les pays du Maghreb, plusieurs fois, en Afrique, en Amérique.
Extrêmement enrichissant.
Oui, c'est vrai que moi, je revenais à la rentrée au collège. J'avais plein de choses à raconter parce que j'avais fait au moins deux grands voyages dans l'été. On partait aussi à Noël au ski. C'est pour ça que je dis que j'ai une enfance très heureuse. Hein, je n'ai pas à m'en plaindre. Mes parents sont vraiment sacrifiés beaucoup, y compris dans leur confort, pour me faire voyager. Donc, je les en remercie énormément pour ça.
Alors, je suis obligée de vous poser la question. D'abord, c'est une question que j'aime poser à mes invités, mais on le verra par la suite, puisqu'on l'a dit en introduction. Vous avez quand même une thèse sur le principe de laïcité actuellement. Quelle a été votre éducation religieuse donnée par vos parents? Et en deuxième question, je vous poserai, par rapport justement à l'éducation que vous avez reçue, quel est votre comportement aujourd'hui par rapport à la religion? Êtes-vous pratiquant?
Alors, ça, c'est une question très intime, auquel je n'ai pas trop l'habitude de répondre, parce que je m'impose une petite éthique. Alors, je vais répondre sur l'enfance, parce qu'il n'y a pas de difficulté. Mais sur mes croyances personnelles aujourd'hui, je m'impose au moins cette éthique-là en ce qui me concerne, oui, à propos de mes croyances. Alors, je vais vous dire que j'en ai, mais je ne vais pas m'étendre sur lesquelles et pourquoi, parce que j'estime que c'est important, en tout cas, dès lors qu'on a des responsabilités, quand même sont-elles minimes pour ma part. Je trouve que c'est important de s'imposer cette éthique-là. On pourra évidemment y revenir. Je parle bien d'éthique, hein, pas de principe juridique. Hein. C'est quelque chose que je m'impose à moi-même. Alors, pour ce qui est de mon enfance, j'ai peut-être parlé de mes deux familles. J'ai des familles qui ont été élevées dans la culture chrétienne et même plutôt catholique. Hein. Du côté de mon père, alors, je n'ai pas connu mes grands-parents parce qu'ils sont morts jeunes, à l'âge de 33 ans et 37 ans, je crois. Mon grand-père et ma grand-mère de la polio. Donc mon père a été élevé avec sa sœur par ma grande-tante, et qui, elle, effectivement, du côté de cette famille-là, était très pieux, catholique, et le sont toujours, d'ailleurs, pour ceux qui sont de ce côté-là de ma famille. De l'autre côté, c'est plutôt une famille de pieds noirs ou de pieds rouges, comme on disait, qui était Alger, et qui en fait, avait plutôt une culture chrétienne ou catholique, mais sans une grande pratique de tout ça. Moi, j'ai demandé à mes parents, quand j'étais petit, d'aller au catéchisme. Ils ne voulaient pas, parce que c'était plutôt des parents, on va dire, évidemment plutôt de gauche, toujours avec Charlie Hebdo qui traîne sur la table. Et donc, peut-être pas anti-religieux, mais quand même pas loin. En tout cas, pour mon père, c'est le cas. Je ne vais pas le cacher. Pour ma mère, c'est beaucoup moins le cas. Et donc, moi, j'avais demandé d'aller au catéchisme. J'y suis allé. J'ai appris beaucoup de choses qui m'ont beaucoup intéressé.
Donc, qui dit que vous avez été au catéchisme, ça veut dire que vous êtes baptisé, communié?
Ah oui, j'ai été baptisé et j'ai fait ma communion. Mais après, j'ai arrêté cet apprentissage-là. J'ai plus pris comme un apprentissage de culture générale, on va dire, d'histoire. Et je n'ai pas vraiment eu la foi, ou une foi particulière, en tout cas, dans ce culte-là, auquel je suis attaché personnellement, familialement, j'ai envie de dire, plus que personnellement. Voilà. Et après, moi, j'ai ma spiritualité qui me regarde et sur laquelle je ne souhaite pas répondre parce que je m'impose cette obligation.
Une toute dernière question avant notre première pause. La réponse est pour moi évidente, mais je vais quand même vous poser la question. De par ce que vous êtes, de par ce que représente la religion et l'éducation religieuse plutôt que vous avez reçue, de par votre curiosité et de par vos études actuelles, j'imagine que vous vous êtes intéressé aux autres religions, au moins philosophiquement parlant.
Ah, bien évidemment, culturellement, historiquement, philosophiquement parlant, et déjà parce que c'est très intéressant. Ce sont des sujets passionnants. Je m'y suis même intéressé spirituellement. En revanche, après, effectivement, je ne pratique pas un culte monothéiste ou polythéiste en particulier.
Je vous propose, Pierre, une première pause musicale. Et vous avez choisi une chanson de Claude Nougaro. C'est une reprise de Tech Five de Brubeck. À bout de souffle, on écoute.
Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets. Était là bien sage. 200 briques, somme toute ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur et ma planque chez Suzy. Et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, une radio s'est mise à déverser, un air de piano à tout casser. Je connaissais ce truc, c'était le Blue Rondo à la Turtève. Boubette jouait comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond, je pris le récepteur. Allô, c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un garde flic au coin de la rue. Je restais sans voix, j'étais foutu. Il faut que tu filmes, me dit-elle. Descends pas sur le toit par les doigts. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Encore les flics, vite le fric. Et puis l'escalier de service, 4 à 4, 1, 20. Ta s'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue du Colisée. C'était la cohue. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Ah, le temps, la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. D'une cour, je descendis jusqu'en bas et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue, je ne le savais plus, mais tant pis, je suis sorti et tout de suite je les ai vus. Quatre flics au bout de la rue, pas de panique, j'ai reconnu le bar du living, j'y suis entré. La boîte était pleine comme un œuf, deux ou trois jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retournais. Suzy était là toute pâle, elle me souriait. De nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle m'a dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici. Nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas. Avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué. Me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas. Je te suis, on y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie. Toute la vie.
Évidemment, en tant qu'amoureuse de Toulouse, je suis toujours ravie quand j'ai un invité qui propose d'écouter Claude. Mais vous, pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Parce que ça me rappelle encore une fois également mon enfance. Ça me rappelle également l'amour que je peux avoir pour Toulouse et également pour le jazz. J'aime beaucoup cette reprise de l'album de Dave Brubeck justement. Déjà j'aime bien l'original évidemment, mais j'aime beaucoup cette reprise parce que symboliquement justement elle représente un petit peu mon enfance quand je me suis expatrié avec mes parents en Creuse. Je dis ce terme qui est un peu fort, mais où on écoutait tout le temps Nougaro notamment.
Et donc parce que vous n'étiez pas très très loin non plus. Creuse, on n'est pas non plus à l'autre bout du monde.
Non, mais quand on vit dans un endroit, qu'on ne vit plus à un endroit qu'on aime, c'est vrai que c'est très compliqué. Et pour le coup, c'est très compliqué quand on aime vraiment un endroit et qu'on aime y vivre. Et c'était le cas de mes parents pour Toulouse. Et du coup, c'est vrai qu'écouter Claude Nougaro, aller le voir en concert quand il passait d'ailleurs, c'était quelque chose de très important. Et donc, moi, mon enfance a été bercée notamment par ces musiques-là. Puis on l'a dit tout à l'heure, avec ma mère qui aime les lettres, évidemment, bah, les paroles de Claude Nougaro, la poésie.
Bien sûr, évidemment.
Je pensais à Jacqueline Berti aussi, cette chanson-là de Claude Nougaro qui me parle beaucoup. Voilà, l'amour de la poésie, je trouve que Claude Nougaro le transmettait parfaitement bien.
Alors, j'avais encore plein de questions à vous poser sur cette première partie d'émission de vous et dans votre enfance. Et j'aurais aimé, alors on va le faire extrêmement rapidement, deux, trois mots sur votre adolescence. Comment ça s'est passé?
Ouais, j'ai plutôt été un adolescent sympa. Voilà, je n'ai pas eu une grosse crise d'adolescence en ayant été assez choyé, heureux. Il n'y avait pas de raison. Écoutez, c'est vrai. Voilà, donc après, par contre, moi j'ai des velléités d'indépendance très très jeune, très très tôt. Et donc dès l'âge de 17 ans, dès que j'ai eu mon bac, j'ai eu envie de m'épanouir seul. Et donc à 17 ans, j'ai eu envie d'avoir un appartement, de me donner ces moyens-là. Donc j'ai travaillé.
C'est quelque chose que vos parents ont compris? Parce que j'imagine quand on a un seul enfant, de le voir partir et en plus si jeune, ça doit être quand même quelque chose de douloureux.
Ça a été très bien compris par mon père. Ça a été beaucoup plus douloureux pour ma mère, c'est vrai.
Ça. En tant que maman, je le comprends tout à fait.
Voilà, et c'est vrai, j'avais envie. Après, j'étais pas très loin. Ils habitaient l'Union, j'habitais en centre-ville de Toulouse. Mais j'avais besoin aussi, moi, d'avoir cette indépendance, de travailler. Et depuis l'âge de 17 ans, je n'ai jamais cessé de travailler, y compris en faisant mes études, y compris en faisant ce que j'aime faire à côté, mes passions, parce que je trouve que c'est très important d'avoir une base et quelque chose auquel on se doit à soi-même. Voilà.
Question, comment vous avez votre bac littéraire, donc à Raymond Nave, vous avez dit avoir fait votre scolarité secondaire à Raymond Nave. Pourquoi avoir choisi une inscription à la fac de droit?
Alors c'est très particulier parce que souvent effectivement on s'inscrit en fac, on se dit bon, on va bien voir si ça me plaît la première année. En tout cas moi je vois les premières années, les étudiants, il y en a au moins une moitié qui est dans ce cas-là. Moi c'est vrai que j'avais une volonté d'étudier le droit public. Alors pourquoi? En plus, précisément le droit public, parce que je suis tombé dans la chose publique et la chose politique et l'intérêt pour ces choses-là depuis très très jeune. Et mes parents n'ont jamais compris, d'ailleurs. Ils n'ont jamais compris d'où ça venait, parce que c'était politisé, mais pas outre mesure. Voilà.
Ils étaient militants?
Pas du tout.
Pas du tout. Donc ce n'est pas un exemple que vous avez reçu à la maison?
Absolument pas, ni dans ma famille, d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'est venu, et j'avoue que mes parents n'ont pas très bien compris non plus, parce que ça m'est venu très très jeune. J'ai fini par adhérer beaucoup plus tard, n'ayant pas le parcours peut-être classique du militant, du jeune militant. Voilà. Mais c'est quelque chose qui était très important pour moi et je suivais beaucoup les actualités. Et donc le droit public, évidemment, pourquoi? Parce que c'est un outil de compréhension du monde. J'avais envie de comprendre comment fonctionne le monde et étudier le droit, c'est aussi comprendre comment fonctionne l'état de droit dans lequel on est. Et le droit public, parce qu'on parle des choses politiques, parce qu'on parle de l'État, parce qu'on parle de la puissance publique, parce qu'on parle de l'intérêt général, qui sont des choses qui m'ont toujours passionné, intéressé. Et j'avais besoin de savoir ce que tout ça voulait dire, de m'en faire une propre idée et de l'utiliser.
Donc comment ça se passe? Vous arrivez, vous avez 17 ans, vous avez le bac en poche, vous prenez un appartement?
Oui.
Vous inscrivez à la fac de droit?
Oui.
Vous prenez un petit boulot à côté?
Oui, alors j'ai eu la chance de travailler un travail qui est assez agréable, comme surveillant dans différents établissements scolaires. J'ai commencé par une année au collège Lumirail, au collège Vauquelin. Ça m'a appris la vie un petit peu d'ailleurs aussi, parce que c'est un collège un peu difficile, hein, même s'il y a beaucoup de mixité, c'est un collège... Quand on a 18 ans, 17-18 ans, et qu'on arrive et qu'on est surveillant dans un collège avec des élèves qui ont à peine 5 ans de moins que nous, c'est très compliqué. Mais ça m'a permis de financer un petit peu ma vie, grâce à mes parents aussi, hein, évidemment, qui m'ont aidé.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit que vous aviez été surprotégé?
Peut-être pas, non, j'ai pas eu du tout eu cette impression avec mes parents, même si c'est peut-être le cas, mais non, j'ai pas eu l'impression. Mais par contre, c'est vrai que j'avais peut-être une certaine bien-pensance de certaines choses, et le fait d'avoir été surveillant au Mirail, je dois vous l'avouer, j'ai pas de difficulté à le dire, c'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années, mais j'ai vu des choses qui n'étaient pas dans mes idéaux, dans mes...
Bien sûr.
C'est vrai que c'est toujours facile de parler des quartiers populaires, de parler de ces choses-là quand on est à l'extérieur, dans une petite banlieue chic comme l'Union dans laquelle j'étais, dans un petit confort. Et quand on est confronté à la réalité du terrain, là, c'est un peu différent. Et je me souviens très bien de cette année-là. C'est une année où j'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps. Voilà, et donc après, j'ai continué mes études de droit et j'ai fait dans d'autres établissements. J'ai fait au collège Jolimont, qui est un collège très difficile aussi. Et j'ai fini par être surveillant au lycée Fermat, qui est notre style, avec d'autres difficultés, qui ne sont vraiment pas du tout les mêmes que dans les autres établissements, mais qui est un lycée qui m'a beaucoup appris aussi sur moi-même, qui m'a beaucoup appris sur plein de choses, et qui est un lycée dans lequel je garde de très heureux souvenirs, de très nombreux souvenirs, puisque je suis resté 4-5 ans en tant que surveillant pour financer mes études.
Effectivement. Et donc, parallèlement à ça, vous aviez commencé donc un engagement politique ?
Alors, j'ai commencé mon engagement politique sur le tard. J'ai commencé mon engagement politique en 2011. Donc, on va dire, c'était
22
3,
ans.
Voilà, donc c'était 3-4 ans après
votre
arrivée à la fac.
Mm-hmm.
J'avais un engagement associatif d'abord, qui était un engagement associatif à la Ligue des droits de l'homme et à Amnesty International, que j'ai abandonné plus tard pour des questions idéologiques, on pourrait y revenir, notamment sur la laïcité. Et j'ai voulu m'engager politiquement depuis tout jeune, mais là, je me suis dit, c'est peut-être le bon moment, et c'est une figure qui m'a... quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai suivi plusieurs fois, qui m'a fait sauter le pas et m'engager au Parti Socialiste, c'était Arnaud Montebourg, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et pour qui j'ai été très engagé, notamment dans sa dernière campagne de 2017 en interne et également en 2011. Donc c'est lui qui m'a donné la volonté vraiment d'adhérer au Parti Socialiste, parce que j'aimais bien sa ligne politique, j'aimais bien son style politique, et j'aimais bien les idées qu'il mettait en avant.
Et lui, d'ailleurs, aujourd'hui, il a complètement quitté la politique. Je crois savoir qu'il est chef d'entreprise maintenant.
Totalement. Et j'aime beaucoup cette manière de faire. Ça n'est pas un petit apparatchik d'un parti politique, comme il y en a tellement. C'est quelqu'un qui avait un travail. C'est quelqu'un qui s'est monté tout seul, quand on connaît un peu sa vie et sa famille.
Il était avocat aussi, je crois.
Exactement. Et il vient d'un milieu plutôt modeste, parce qu'on a l'impression, avec sa voix et son accent qui déplaît à beaucoup de gens, qu'en réalité, il vient peut-être d'un milieu aisé. Ce n'est pas du tout le cas. Et c'est quelqu'un qui s'est fait un peu tout seul et que moi, j'apprécie ça, en tout cas. Voilà, et qui a fait beaucoup d'efforts et qui a fait de la politique, mais avec un vrai métier à côté, et qui pouvait tout à fait retrouver un vrai métier à côté. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et il a l'impression d'aider plus, en tout cas, pour savoir un petit peu la France aujourd'hui avec ce qu'il fait, d'un point de vue à la fois écologique, d'un point de vue du Made in France, d'un point de vue économique. En faisant le miel et les amandes qu'il fait avec sa marque Bleu Blanc Ruche.
Oui, on en entend beaucoup parler.
C'est vrai. Ouais. Mais peut-être que c'est quelque chose qui intéresse les gens et qu'on trouve que...
En tout cas, comme vous dites, c'est tout à fait d'actualité.
Exactement, notamment sur tous les sujets qui concernent les abeilles, qui est quand même...
C'est un sujet qui vous parle également ?
Ah oui, énormément. Énormément pour plein de raisons. D'ailleurs, j'habite juste à côté de l'hôtel d'Acesa. Et je suis ravi j'ai appris il n'y a pas très longtemps avec un ami qui représente un syndicat des apiculteurs, qui s'appelle Olivier Fernandez, qu'il y avait des ruches dans l'hôtel d'Acesa. Donc je ne vois plus du tout l'hôtel d'Acesa de la même manière. Mmh. Je suis ravi qu'il y ait ces ruches en centre-ville. Et je trouve ça un espoir, évidemment, même si c'est symbolique.
Alors on va revenir justement à vos 22 ans, à votre début en politique.
Oui.
On peut le dire comme ça. Vous m'avez dit en début d'émission que vous étiez un proche de Romain Cugive, qui était là la semaine dernière. Donc, vous avez commencé dès le départ à travailler ensemble ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Pas du tout. Moi, j'étais un petit peu seul, un peu franc-tireur. Je suis toujours un petit peu en réalité, parce que je ne travaille pas dans la politique. Je n'ai jamais eu de travail politique, je n'en souhaite pas.
Pour l'instant.
De travail politique, c'est-à-dire de collaborateur, jamais. Voilà. En revanche, il ne faut jamais dire jamais, mais c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. En revanche, faire de la politique mettre en avant des idées, ça oui, effectivement. Et j'estime que ce n'est pas un travail. J'estime que c'est une fonction qu'on peut avoir, qu'on peut avoir la chance d'avoir. Et c'est surtout une grosse responsabilité, mais pas un travail. Enfin, en tout cas, je ne l'envisage pas comme ça, même si ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement. Et je me suis engagé, alors oui, bon, j'ai rencontré Romain assez rapidement, puisque c'était un soutien d'Arnaud Montebourg également et d'autres personnalités du Parti Socialiste local. Mais je souhaite toujours rester un peu à côté, parce que j'attachais beaucoup d'importance aussi à mon engagement associatif, que je n'ai pas perdu. Alors, ça a été évidemment la Ligue des droits de l'homme au début, mais après ça a été l'association pour le droit de mourir dans la dignité, dans laquelle je suis très actif encore aujourd'hui. Et je trouve que ça se marie bien et il y a une complémentarité à tout ça. Alors, ce que je ne souhaite surtout pas, c'est devenir effectivement ce que les gens n'aiment pas aujourd'hui, c'est-à-dire des gens de parti qui ne vivent que par le parti ou par le mouvement, puisque c'est la mode de dire des mouvements avec En Marche, par exemple, mais on retrouve les mêmes logiques. Et je trouve que c'est dommage, même s'il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça. Moi, ça n'est pas du tout mon envie.
Il y a beaucoup de choses qui vous révoltent ?
Politiquement, oui. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un conservatisme qui s'exprime, retour à des valeurs conservatrices qui s'expriment, qui me déplaisent. pourtant je peux avoir un aspect très conservateur également, mais notamment dans les partis politiques, dans les mouvements politiques. Et je pense qu'il est intéressant pour les gens d'une certaine génération dont fait partie Romain ou dont je fais partie, de s'imposer, de s'affirmer, parce qu'on a des idées à faire valoir, parce qu'on a notre manière, on a une volonté de faire de la politique autrement. Alors je sais que c'est une phrase qu'on entend partout, mais c'est quelque chose qui est important, parce que moi ce qui m'importe c'est de pouvoir changer vraiment la vie des gens. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup et que j'entends aussi souvent dans la bouche de Romain, et donc effectivement je suis en soutien parce qu'on est d'accord tout simplement.
Je vais revenir à la fin donc de votre Master 2,
oui.
Qui n'est pas si loin, il y a 4-5 ans maintenant.
C'est ça.
Racontez-nous un petit peu le choix. D'abord, vous allez nous dire exactement le nom de votre thèse.
Très bien.
Et le choix de cette thèse, comment ça s'est fait tout ça ?
Alors c'est très compliqué. Donc déjà, je ne voulais pas faire de thèse. J'ai fait une thèse parce que je suis tombé amoureux de la recherche. Voilà. Et donc quand on commence à faire le travail de recherche, on sait rapidement si on aime ça ou si on n'aime pas ça. Moi, très rapidement, j'ai su que j'aimais ça, mais avant, lorsque j'étais en Master 1, je ne savais pas que je pouvais aimer ça, parce qu'en fait, on fait en mémoire en Master 2. Donc moi, dans mon Master 2 d'Histoire du droit et des institutions à l'UT1 Capitole, je me suis pris de passion pour mon mémoire. Le sujet, c'était sur les lois Ferry, donc les lois de gratuité, d'obligation et de laïcisation de l'enseignement à Toulouse et dans le département. Et donc, je me suis intéressé avec des archives à voir comment ces lois-là avaient été mises en place, qu'est-ce que ça avait pu apporter. Et là, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la recherche, j'aimais vraiment écrire, même si c'est des fois très douloureux, très violent. Et j'aimais produire ce travail de réflexion. Et donc, j'ai abandonné mon projet initial qui était de faire l'ENA ou de faire les IRA, les Instituts Régionaux d'Administration. Donc, je passais les concours en même temps que ce Master 2. Et j'ai voulu continuer en thèse. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur des universités de droit public qui m'a pris sous son aile pour faire une thèse en droit public sur le concept de liberté de religion en droit. Et pourquoi ce sujet ? C'est un sujet qui m'a toujours passionné, la laïcité. Alors, ça s'est fait un peu comme ça parce que un jour je suis tombé sur ce terme-là, sur cette chose-là que je ne comprenais pas. Je me souviens que j'étais au collège ou au lycée quand il y a eu la loi de 2004 dans les établissements scolaires de neutralité pour les élèves, et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et donc, quand je ne comprends pas ce que ça veut dire, j'ai ouvert un dictionnaire. Je n'ai pas compris ce qu'il y avait écrit dans le dictionnaire. Donc, j'ai ouvert des livres encore. Et en fait, je ne me suis jamais arrêté de travailler sur ce sujet-là. En ayant des passions de ce qu'est l'enseignement, de ce qu'est la transmission, de ce qu'est l'émancipation des individus, qui sont venus plus tard, des sujets que je travaille. Mais évidemment, j'ai vu toute l'importance, toute la place que pouvait avoir ce principe-là. Et la chance qu'on pouvait avoir en France d'avoir ça. Et puis, un dernier point qui m'a d'autant plus engagé là-dedans, et politiquement et scientifiquement. Lorsque j'étais surveillant à Fermat en 2012, je me souviens très bien que j'étais à la vie scolaire et que le rectorat et la police nous ont appelés un matin très tôt pour nous dire qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans un lycée à Oratora. Et nous vous envoyons la sécurité, il faut absolument que vous fermiez, que vous barricadiez dans l'établissement scolaire. Et j'étais profondément meurtri et traumatisé par ce moment. Puis on a eu des élèves qui étaient très liés aussi à d'autres élèves dans ce lycée. Ça a été une gestion très compliquée, humainement parlant. Ce souvenir-là, ça a été un électrochoc pour moi. Et j'ai compris tout l'intérêt, d'une part, de la transmission, mais en plus de la transmission de ce principe-là et de laïcité et de liberté d'expression et de tout ce qui en découle.
Merci, Pierre. Tout de suite, je vous propose un deuxième choix musical. Et là, vous avez souhaité écouter l'ouverture de la flûte enchantée de Mozart.
Thank you.
Merci Pierre. Pourquoi ce choix ?
Merci à vous, parce que d'une part, c'est très classique, mais j'adore Mozart. C'est un personnage déjà qui m'a toujours intéressé et fasciné. Et puis tout simplement parce que j'adore sa musique et j'adore réécouter constamment. Tout à l'heure, je vous disais que je lisais souvent Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. J'écoute très souvent Mozart et c'est quelque chose qui m'accompagne dans toutes mes épreuves dans la vie. Alors particulièrement cette ouverture de la Flûte Enchantée, parce que elle représente pour moi quelque chose que, vous savez, dans cet opéra, il y a quelque chose d'une bataille qui est annoncée dès le début de l'ouverture, donc qu'on a entendu entre les forces du bien et les forces du mal. Ça fait un petit peu binaire comme ça, mais justement, il y a quelque chose de plus complexe, de plus intéressant là, dans cette œuvre-là, que je travaille régulièrement et qui me passionne toujours autant. Voilà. Donc c'est une œuvre qui m'accompagne régulièrement.
On a parlé en première partie d'émission de votre intérêt pour la découverte des pays étrangers, oui, des cultures. En deuxième partie d'émission, on a parlé de vous de 20 ans à aujourd'hui. On a vu que vous aviez un planning très chargé. Vous avez quand même eu le temps dans ces années-là de jeune homme de voyager un petit peu ?
Alors oui, j'ai eu cette chance de pouvoir voyager un petit peu partout, y compris seul. Je suis allé à Chicago, qui est une ville extraordinaire, refaite depuis quelques années d'ailleurs, à l'île de la Réunion. Là, demain, je pars en Guyane. Bon, alors, c'est plus pour le travail, pour une formation. Et j'ai eu le temps également, j'ai eu la chance d'habiter un tiers de mon temps, il y a 2 ans, dans la ville de Venise. Et donc j'ai appris à connaître, parce que je la connaissais qu'un petit peu, en fait j'étais venu plusieurs fois dans mon enfance, mais j'ai appris à la connaître au quotidien.
Dans quel cadre vous avez vécu à Venise ?
C'était mon ex-compagne qui vivait là-bas, et oui, qui, pendant 1 an, et donc je me suis organisé pour qu'un tiers de mon temps se passe là-bas, et je ne l'ai pas regretté, parce que c'est vraiment une ville extraordinaire, et j'en puise encore beaucoup d'inspiration dans ma vie quotidienne, qu'elle soit créative, qu'elle soit... plus juridique et même politique. Voilà, c'est une ville qui me passionne aussi. Alors, je suis bien moins documenté et bien moins érudit que Monsieur Laverne, que vous connaissez bien ici, mais je connais quand même un petit peu cette ville, et j'ai toujours beaucoup d'émotions en en parlant, parce que c'est un endroit où j'aime aller. J'aimerais pouvoir me faire des week-ends comme ça, m'évader et aller à Venise. Encore aujourd'hui, bon, j'ai plus trop le temps cette année, mais...
Vous m'avez dit tout à l'heure, hors émission, que dans l'idéal, vous souhaiteriez être enseignant-chercheur. On le sait, aujourd'hui, ce n'est pas évident d'avoir un poste et encore moins de choisir sa ville. Vous êtes très attaché à Toulouse, comme on a pu le dire depuis le début de l'émission, et par vos origines et par beaucoup de choses, et parce que vous êtes engagé aujourd'hui... aussi pour les Toulousains, vous auriez du mal à devoir aller vivre ailleurs ?
Énormément, énormément, mais je pense qu'il y a des moyens de s'organiser. Alors, déjà, est-ce que je réussirais à être enseignant-chercheur ? Ça, c'est très difficile, hein. Il faut beaucoup de prétention, alors j'en ai un petit peu. Je vais essayer d'y arriver, mais c'est très très difficile. Si je n'y arrive pas, du coup, je pourrais m'installer à Toulouse avec une autre activité. En revanche, c'est vrai que si je dois quitter Toulouse, et ce sera certainement le cas si j'arrive à être enseignant-chercheur, puisque je risque plutôt d'être recruté dans une autre université, auquel cas, eh bien, il faudrait que je m'organise pour être au moins la moitié de mon temps à Toulouse.
Ah, vous continuerez quand même venir vous investir sur Toulouse et les Toulousains ?
Ah oui, totalement, m'investir, et puis parce que tout simplement j'aime vivre ici, et si on aime vivre quelque part, je ne vois pas pourquoi il faudrait le quitter, ou en tous les cas, je pense qu'il est possible de s'organiser pour vivre une partie de son temps. Je l'ai fait pour Venise, je pense que je pourrais le faire
raison,
pour Toulouse.
Bien sûr. Vous dites, si je ne peux pas être enseignant-chercheur, je m'installerai pour faire autre chose. Quelle serait cette autre chose ?
Alors aujourd'hui, j'ai monté une entreprise pour financer ma thèse, puisqu'elle n'était pas financée les 3 premières années. Alors maintenant, ça n'est plus le cas, parce que j'ai un contrat à l'université d'attaché temporaire d'enseignement, vous l'avez rappelé, et de recherche, mais donc j'ai une entreprise de consulting, une entreprise de formation, de conférencier, et je fais beaucoup de conférences sur la laïcité, justement, la gestion du fait religieux. J'accompagne parfois des entreprises qui ont besoin de conseils sur leur gestion du fait religieux, parce que c'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant dans la société et important, et donc ils ont besoin évidemment d'avoir des personnes qui connaissent ce sujet d'un point de vue juridique d'une part, et puis même d'un point de vue éthique, il y a une vision et qui peut leur permettre de les accompagner vers une transformation au niveau de leur entreprise. Et y compris là, je pars en Guyane demain pour former des fonctionnaires du service public, de tout type de service public, au principe de laïcité.
Alors laïcité, c'est un mot qu'on a prononcé une quinzaine ou une vingtaine de fois depuis le début de l'émission. Je vais en profiter pour vous poser la question qui fait polémique. Je sais que vous avez écrit un article suite à ce qui s'est passé cet été dans la grotte avec certains de nos élus. Je n'ai malheureusement pas pu lire cet article, donc j'aimerais que d'abord vous me fassiez part de ce que vous avez ressenti en apprenant cela et quel était le contenu de votre article.
En fait, ça fait depuis l'élection de Jean-Luc Boudin, puisque vous l'avez dit, je m'intéresse un peu à la politique et notamment la politique locale, que je regarde ce qui se fait en matière de laïcité. Voilà, il y a une certaine continuité avec le Conseil de la laïcité qui a été créé dans la majorité précédente. Donc ça, moi, je m'en félicite plutôt. En revanche, il est vrai que depuis le début, on sent des appels du pied, peut-être à une communauté religieuse plus qu'à une autre. Et ça me gêne profondément. Ça me gêne profondément d'un point de vue éthique, d'un point de vue politique. Je ne dis pas que les choses qui sont faites sont illégales. En revanche, je trouve qu'il y a une stratégie politique qui, à mon avis, est dangereuse en plus dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Vis-à-vis des communautés religieuses. Voilà. Et je pense que la majorité actuelle est tout à fait sincère dans son approche. Moi, je suis totalement dans la mienne. Simplement, on n'a pas du tout la même approche. Et j'en avais discuté quelques fois avec Jean-Michel Latte, puisqu'il est question de lui, en plus, avec les écharpes tricolores à Lourdes. Je vais le développer. Mais on n'a pas la même vision de la laïcité et de l'éthique laïque qu'un élu devrait avoir. Tout simplement parce que j'ai l'impression, je ne voudrais pas parler à sa place, mais comme on a eu des échanges Twitter un peu houleux parfois, ou sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que cette majorité a plutôt une tendance que moi j'appelle œcuménique, hein, qui est proche finalement de la majorité actuelle d'En Marche et du président Macron, où finalement il existe différentes communautés religieuses, ce qui est le cas dans la société, moi je ne le nie pas, mais il faudrait que la puissance publique, la personne publique eux-mêmes représentent, doivent accorder de l'importance et de l'existence et de la reconnaissance par divers moyens à toutes ces communautés religieuses. Sauf que force est de constater qu'en voulant, comme dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt la logique anglo-saxonne, accorder une existence propre à chaque communauté religieuse, on en oublie et on ne traite pas ces communautés de la même manière. Alors que l'éthique laïque, que des élus pourraient s'imposer, finalement, on permet de traiter toutes les communautés religieuses de la même manière parce que justement, on évite tout clientélisme, on évite tout favoritisme, on évite toute visite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue entre la puissance publique, il y en a toujours eu, et les différentes communautés religieuses. Ça veut dire simplement qu'on ne les utilise pas à des fins électorales. Et j'ai eu l'impression, peut-être à tort, qu'à Lourdes, donc pour situer le contexte rapidement, Jean-Baptiste de Scoura, qui est un autre élu de la mairie de Toulouse, qui ne cache pas sa parenté, sa proximité avec les mouvements intégristes, religieux, comme Sens commun, etc. Chaque année, aller à Lourdes pour le 15 août, fait partie des traditions, mais y aller avec son écharpe tricolore pour représenter la République et représenter la ville de Toulouse. Alors bon, j'ai souvent demandé que lui avaient fait les Toulousains pour qu'il ait besoin de les représenter à Lourdes. Qu'il aille à Lourdes, Jean-Baptiste de Scorail, ça ne pose aucune difficulté. Mais qu'il aille représenter les Toulousains sans leur accord, avec son écharpe tricolore, me pose des difficultés. Je m'étonnais que cette année, Jean-Michel Latte ait besoin de le faire, et en plus de déclarer sur différentes ondes radio, différentes chaînes de télévision et différents médias, d'en faire la promotion, et de dire qu'il fallait, en tant qu'élu, affirmer son appartenance religieuse parce que c'était nos racines chrétienne, catholique, en plus il me semble qu'il y a des confusions à ce niveau-là d'un point de vue historique, on pourra y revenir si vous le voulez, et j'ai été choqué, donc j'en ai fait part dans un article, effectivement sur mon Facebook, en ligne, dans mes réseaux sociaux, qui a été beaucoup partagé, y compris au niveau national, voilà, parce que j'estimais que ce n'était pas le rôle d'un élu de faire ça.
Vous avez eu l'occasion d'en parler directement avec Jean-Michel Latte ?
Alors malheureusement non, on a eu plus des échanges Twitter, on se croise que quelques fois à la fac, mais il n'a pas le temps, et moi non plus, je dois le dire, donc il est très pris en tant que premier adjoint de la ville de Toulouse, je le comprends bien, donc on n'a malheureusement pas eu le temps d'en parler, mais ce que je sais, c'est que je pense sincère dans son approche, et on n'a simplement pas la même approche de la laïcité. Lui, je le qualifierais plutôt de communautariste, avec l'idée que toutes les communautés religieuses existent, il a raison, mais qu'il faut que l'élu leur donne des gages. Moi, j'estime que non, l'élu n'a pas donné des gages à des communautés religieuses, il a donné des gages qu'à une seule communauté, c'est la communauté nationale quand on est élu national et la communauté toulousaine quand on est élu à Toulouse.
qu'avez-vous pensé du tweet, justement, de M. Moudenc suite à cette histoire ?
Alors, suite à cette histoire, effectivement, Jean-Luc Moudenc a fait un tweet un peu facile, hein, assez électoral, enfin électoraliste, mais assez grave, parce que ce qu'il dit me semble être vraiment... Il semble viser une communauté sans la nommer. Et moi, je ne me cacherai pas derrière un voile pour dire qu'effectivement, il y a des problématiques de laïcité, comme il le dit, plus aujourd'hui avec une religion qu'avec une autre. Et ça s'explique pour plein de raisons. En revanche, sa manière de répondre n'est pas constructive, n'est pas à la hauteur de ce qu'il est en tant que maire de la 4e ville de France et de la métropole toulousaine, puisqu'il semble viser une communauté en particulier, ça devrait excuser donc, du coup, tous les abus qu'il pourrait y avoir envers une autre communauté religieuse, quelle qu'elle soit. Et c'est ça que je voulais dénoncer dans mon papier. C'est effectivement qu'il y avait, à mon avis, toute une stratégie politique sur une clientèle religieuse, une clientèle électorale. Et beaucoup de catholiques m'ont écrit, d'ailleurs, suite à cet article, et m'ont remercié, parce qu'ils n'aimaient pas qu'on les instrumentalise. Et ils ont bien senti qu'il y avait une instrumentalisation de leur religion.
Absolument que je lise cet article. Et d'autant plus, je suis confuse de faire l'émission sans l'avoir lu.
Je rajoute quelque chose, c'est ce que j'ai écrit, c'est que c'est en plus illégal. Alors on pourra revenir sur l'utilisation des écharpes tricolores, ça a donné lieu à une jurisprudence abondante, etc. Mais le Code général des collectivités territoriales, et je n'ai pas eu de réponse de Jean-Luc Moudenc là-dessus, ni de Jean-Michel Latte, qui est quand même, il me semble, quelqu'un qui connaît bien le droit, je n'ai pas eu de réponse là-dessus, puisque le Code général des collectivités territoriales en sert bien les moments où on peut porter l'écharpe tricolore, où on peut représenter le maire et où on ne peut pas. Et le problème, c'est que quand on porte l'écharpe tricolore, quand on est adjoint au maire ou conseiller municipal, c'est qu'on représente le maire de Toulouse. Or, que ce soit Jean-Michel Latte ou que ce soit Jean-Baptiste de Scorail, ils ont bien exprimé qu'ils ne représentaient pas le maire de Toulouse, mais qu'ils se représentaient. Et c'est quand même une erreur fondamentale. Et je crois que quand on est élu, qui plus est quand on porte les apparats de la République, on doit en être fier, on doit être conscient qu'on ne se représente pas soi-même. On est dans un moment où on représente la collectivité.
Ça, c'est effectivement, je l'entends, quelque chose qui vous a fait, qui a fait bondir beaucoup, beaucoup de monde, et à Toulouse et partout ailleurs d'ailleurs. Et ça reste un problème toulousain. J'aimerais savoir ce qui, aujourd'hui, au niveau national, vous fait bondir.
Alors, beaucoup de choses. J'écris des papiers, effectivement, vous l'avez rappelé, dans Marianne. Alors, bon, j'ai toute une partie de l'extrême droite qui me vilipende. Bon, j'ai plutôt l'habitude de ça, étant un homme engagé à gauche. Et donc, j'ai l'habitude, y compris des menaces et des injures suite à ce genre d'articles, où je dénonce, par exemple, le discours d'Emmanuel Macron aux Bernardins, qui me semble être absolument pas à propos et en dehors de la manière dont il doit se comporter et du message que le président de la République doit avoir lorsqu'il représente la République. D'ailleurs, il a changé, sans le dire à personne, les insignes de la République récemment, en mettant la croix de Lorraine. C'est quand même un peu problématique. Je n'ai rien contre la résistance, bien au contraire. C'est un symbole catholique qui n'a rien à faire là. Et surtout, il l'a changé gratuitement sans le dire à personne. Bon, alors j'ai toute cette extrême droite qui, finalement, me tombe dessus. Dès lors que je critique un petit peu ce qu'on peut appeler la catholaïcité, j'en parlais à Colavive sur une émission de radio hier. Et de l'autre côté, j'ai toute une partie de la gauche pour laquelle je n'ai aucune difficulté à combattre, parce que pour moi, ce sont des ennemis également, qui ont un problème avec l'islam. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, je pense qu'Edwy Plenel, qui est quelqu'un de très connu, a un problème avec l'islam. Il a un problème avec l'islam parce qu'il ne traite pas les musulmans de la même manière que les autres croyants. Et il n'y a pas de raison de ne pas les traiter de la même manière. Ce sont des croyants comme les autres. Et donc, c'est normal que Charlie Hebdo caricature les musulmans, ou caricature plus exactement l'islam d'ailleurs. On pourra préciser ce propos-là. Et donc, j'écris aussi beaucoup des papiers sur ces problématiques-là, parce que là où je peux rejoindre un peu ce qu'a voulu dire Jean-Luc Moudenc, mais il ne l'a pas dit expressément, c'est qu'effectivement, il y a des problématiques de laïcité, on en a parlé tout à l'heure, en lien avec une religion aujourd'hui, pour des raisons géopolitiques, des raisons qui s'expliquent très bien scientifiquement parlant, avec une partie de l'islam, et donc avec des intégristes qui utilisent cette religion à des fins mortifères. Donc j'écris aussi beaucoup d'articles sur cette question, enfin en tout cas plus là-dessus. Et donc j'ai toute une partie de la gauche qui me tombe dessus, que je n'appelle pas bien pensante, parce que j'estime qu'elle ne pense pas bien du tout, mais plutôt mal pensante effectivement, et qui est dans la posture permanente, qui ne travaille pas ces dossiers-là. Et aujourd'hui on a un vrai problème avec ça, et on va le voir avec un article qui va sortir dans Le Monde récemment avec des journalistes qui ont fait une enquête de terrain dans des quartiers populaires dans lesquels effectivement un islamisme radical gangrène ces quartiers-là et gagne du terrain. Et je pense qu'il vaudrait mieux que Jean-Luc Moudenc soit beaucoup plus proactif là-dessus. Il l'est, je le sais, mais il faudrait qu'il le soit peut-être un peu plus dans les quartiers et dans les solutions apportées que de demander à Jean-Michel Latte, son premier adjoint, d'aller à la grotte de Lourdes le 15 août.
Je ne suis pas sûre qu'il lui ait demandé. J'imagine que Jean-Michel y a été de lui-même, puisque M. de Scorail, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a bien précisé y avoir été en perso.
Mais permettez-moi d'émettre un doute et de penser que ceci est peut-être un calcul électoral également, puisqu'il y a l'approche des municipales dans quelques temps.
On l'a dit, vous écrivez beaucoup, bien sûr votre thèse également, vous lisez beaucoup. En dehors de ça, vous arrivez à sortir un petit peu à Toulouse?
Oui, ça m'arrive et je mange beaucoup dans les restaurants dès que j'en ai l'occasion avec des amis. Je sors, je n'ai pas perdu mes bonnes habitudes d'étudiant, alors beaucoup moins qu'avant, évidemment. Mais je profite pleinement de cette ville, c'est aussi pour ça que j'aime cette ville. Alors, où est-ce que je sors, où est-ce que je vais? Souvent, je prends beaucoup de café sur des places qui me sont chères. Par exemple, la place de la Trinité est une place extraordinaire que j'aime beaucoup. J'ai toujours habité autour, avec la maison La Motte, dessinée par Urbain Vitry, La Fontaine, Les Trois Grâces. Là, c'est avec ce bar qu'est Les Chansons que j'ai connu à différentes périodes où il n'y avait personne, et là maintenant il y a énormément de gens avec les différentes modes. Et puis après des restaurants comme j'avais écouté l'émission où Romain était là, le Mangevin était un de mes restaurants aussi fétiches.
Oui, il en avait beaucoup parlé, je me souviens.
J'aime beaucoup la Gouaille également, dans lequel j'ai beaucoup de souvenirs. Le Wine Bar aussi, qui est en dessous de chez moi, et donc qui est un restaurant tout nouveau finalement, et que je trouve que ça s'imprègne bien dans l'identité toulousaine et qui a décroché pour la deuxième année consécutive la médaille de meilleur bar à vin du monde. On peut être que fier de ça parce que c'est
exactement
un endroit exceptionnel. Et j'aime beaucoup Thomas et Anne qui sont les patrons de ce lieu-là et qui quand ils sont arrivés, je vous donnais un scoop, les deux premiers clients du Wine Bar, vous allez le savoir, c'était le premier Jean-Luc Moudin qui est venu parce qu'il était maire de Toulouse et il est venu pour saluer les nouveaux commerçants. Et le deuxième client, c'est moi. Et puis je suis resté très assidu à ce bar parce que j'aime bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la nourriture, la vie et donc le vin, évidemment. Moi, pour moi, en tout cas, en fait partie. Et j'ai beaucoup de plaisir à me rendre dans cet endroit.
Bon, en tout cas, voilà déjà la fin de l'émission. Moi, j'ai été enchantée de vous découvrir et de vous entendre. Il faudrait qu'il y ait plein de jeunes comme vous. C'est du bonheur et puis c'est bien pour l'avenir de la France en plus. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler à ce micro ou ailleurs. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous. Je viens avec grand plaisir si vous me réinvitez.
Avec plaisir. Au revoir, Pierre.
Au revoir.
Le vent sur les reins des passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.